Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes et à tous, au micro Isabelle Dupuis. Cette semaine, Escale fait le point sur la situation en République centrafricaine, avec Parfé Onanga Anyanga, le représentant spécial du secrétaire général pour ce pays. Alors que la Cour constitutionnelle de transition de la RCA a proclamé le 1er mars Faustin Archange Touadéra président élu du pays, le chef de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée de l'ONU pour la stabilisation en RCA, revient sur les énormes défis qui attendent le nouveau gouvernement. Sur fond d'une actualité centrafricaine également marquée par les allégations d'abus sexuels qui auraient été commis par des casques bleus de l'ONU, Parfé Onanga Anyanga fait aussi le point sur les mesures mises en place pour appliquer la politique de tolérance zéro en matière de violence sexuelle. Il est au micro de Christina Silvero.
Parfé Onanga Anyanga, bonjour.
Bonjour.
La RCA vient de mener à bien ses premières élections depuis la crise de fin 2012. Des élections avec un taux de participation importante, caractérisées de crédibles et de pacifiques. Le président élu Touadéra parle d'une nouvelle ère pour la RCA qui va retrouver sa place au concert des nations. Est-ce le début d'une nouvelle ère et quelle ambiance règne à Bangui dans les régions en ce moment ?
Je crois que le président a bien raison. Il a bien lu l'espoir de son peuple. Ce peuple nous l'a montré tout au long du processus électoral, qu'il a voulu paisible et absolument transparent. Ce peuple a envie de tourner la page. Et nous le voyons depuis cette élection confirmée par la Cour constitutionnelle. Je crois que le pays est prêt à tourner la page.
Quelles sont les priorités et les prochaines étapes donc au lendemain de ces élections et pour 2016 ?
Je n'envie pas les nouvelles autorités. Mais elles vont avoir l'appui de la communauté internationale, en tout cas de la MINUSCA, et de tous les partenaires sur le terrain, à travers ce qu'on appelle le G8 RCA, l'Union européenne, la Banque mondiale, la France, les États-Unis, mais aussi la CEAC et l'Union africaine, sans compter la médiation qui a accompagné le pays depuis le début de cette crise. Ce pays a d'énormes défis à relever. Le premier, la réconciliation nationale. Mais certainement aussi la question de la sécurisation du pays, et qui n'est pas seulement une question, un défi militaire. C'est d'abord la volonté des Centrafricains à se retrouver autour d'un contrat social renouvelé, cette volonté de vivre ensemble. Je crois que ça va être le grand défi de cette nouvelle administration, de rassurer toutes les parties du pays et de mettre en place une gouvernance qui sera fondée sur l'inclusivité plutôt que la marginalisation qui a affecté tant de populations et qui a été, je crois, à la base de toutes les difficultés que le pays a connues. Maintenant, il va y avoir la réforme du secteur de la sécurité, mais aussi le désarmement. On a encore beaucoup trop de communautés armées au-delà des groupes armés eux-mêmes. Il va y avoir aussi certainement l'épineux problème du retour des réfugiés qui ont quitté le pays à la suite de ces violences absolument déplorables, mais aussi les déplacés internes. Et toute la question de l'assistance humanitaire. On est dans un pays où la moitié de la population, près de 2 600 personnes, vivent au-dessous du seuil de pauvreté et ont besoin d'une assistance humanitaire d'urgence. Donc, il y a énormément de défis. Je n'oublierai pas la question de la justice, à travers la nécessité justement d'une justice transitionnelle et de mettre fin à travers toutes ces activités, à ces actions, à la fin, à la lutte contre l'impunité. Donc, nous avons là un immense chantier qui attend les nouvelles autorités, mais dans lesquelles, je crois, elles peuvent compter sur l'appui le plus fort possible des Nations Unies et de la communauté internationale.
Quel va être le rôle de la MINUSCA et des cours internationales dans cette lutte contre l'impunité ?
Il y a une collaboration, un suivi constant de la CPI, une collaboration qui existe entre elle et les autorités nationales, mais nous assistons également les autorités nationales à mettre en place ces cours criminels spéciales. Sur un plan technique, nous devons évidemment les aider en ce moment à identifier les magistrats internationaux qui feront partie de ce pool de magistrats auxquels participeront également les magistrats nationaux. Nous sommes, avec les Centrafricains, avons fait ensemble ce travail qui était un travail essentiel de l'assistance à l'élaboration de cette loi qui a établi cette cour. Et puis maintenant, il y a tout ce qu'il faut faire en termes de plaidoyer pour rassembler les immenses ressources qui seront requises pour faire fonctionner cette institution importante. Donc c'est une assistance multiforme sur le plan technique, mais que nous faisons également en collaboration avec d'autres partenaires bilatéraux importants de la République centrafricaine.
Oh,
Votre prédécesseur a dû démissionner en août 2015 suite aux allégations d'abus sexuels par les troupes et membres de la mission. Depuis, de nouvelles allégations ont été faites et de nouvelles victimes identifiées. Alors, quelles mesures prenez-vous pour appliquer la politique de tolérance zéro rappelée par le secrétaire général? Et est-ce que vous mettez en place les recommandations qui sont parues donc dans ce rapport, dont la création de centres pour pouvoir recevoir ces allégations d'abus des victimes sur le terrain?
Ce qui a changé, c'est fondamentalement l'attitude des Nations Unies. Les nouvelles mesures prises par le secrétaire général sont sans précédent. Des noms de pays sont cités. Des contingents entiers de pays sont renvoyés. Il y a une volonté beaucoup plus stricte de suivre aussi les cas d'allégation. Faire connaître la vérité, c'est rendre justice aux victimes. Et nous assurer qu'il y a un suivi, qu'il y a une responsabilité, qu'il y a des décisions de justice qui sont dites pour précisément punir ceux qui ont été identifiés comme les responsables de ces odieux crimes. Et bien c'est tout cela qui va désormais occuper non seulement la MINUSCA, mais aussi les Nations Unies à travers les structures de la centrale. Et M. Atoukaris a été devant la presse pour présenter le rapport du secrétaire général. Maintenant, notre attitude à nous, à la MINUSCA, a été de nous dire qu'il nous faut avoir une démarche qui mette la victime au centre de nos préoccupations. Donc, le soin apporté aux victimes lorsqu'elles ont malheureusement subi l'horreur de ces crimes, et puis surtout tout l'accompagnement qui se fait à travers, non pas seulement la MINUSCA, mais avec toutes les agences qui sont sur place, l'UNICEF, l'OFNUAP, mais aussi des organisations comme Mercicaps. Nous travaillons ensemble pour nous assurer qu'on prenne soin des victimes lorsqu'elles ont connu ces crimes odieux. Mais il n'y a pas que ça. Le secrétaire général propose l'établissement d'un fonds fiduciaire qui devrait recueillir un ensemble de contributions pour précisément, non pas faire la compensation, mais de l'assistance à ces personnes dont les vies ont été détruites. Mais ce qu'il faut faire aussi, c'est certainement d'abord aller aux racines même de ce mal qui ronge cette société elle-même qui a été déstructurée par des années de violence où tout le tissu social est absolument mis à mal. L'autorité familiale est absolument compromise. Et donc, nous avons un énorme travail également d'une campagne qu'on va lancer avec les autorités centrafricaines pour que cette question-là soit aussi perçue par les sociétés, par les populations elles-mêmes, comme des questions qui ne sont pas acceptables et sur lesquelles il faudrait avoir une tolérance zéro contre la complaisance, mais aussi contre l'impunité. Donc, toutes ces mesures, nous les faisons. Nous avons lancé, ce qui n'était pas fait ailleurs, des patrouilles pour contrôler nos propres troupes et nous assurer que dans les heures où elles ne sont pas occupées aux missions de protection de population civile, qu'elles se tiennent dans les casernes pour que précisément nous puissions avoir un meilleur contrôle. Ce que ce problème pose est un problème qui est beaucoup plus grave et plus profond. C'est un problème au fond de discipline, non pas seulement de comportement, mais de commandement de nos troupes. Et ce sont sur toutes ces choses-là que nous sommes en train de travailler, évidemment en partenariat avec les pays d'origine de ces troupes, parce que comme vous le savez, nous n'avons malheureusement pas la responsabilité de juger ces troupes lorsqu'elles sont identifiées comme ayant causé des crimes odieux. Nous avons demandé, le secrétaire général vient de le proposer dans son rapport, qu'on ait la possibilité d'avoir des cours martiaux qui soient établis sur le terrain, avec la capacité que nous aurons désormais d'identifier assez rapidement les indices qui permettront d'établir la responsabilité justement des auteurs. Ce qu'il faut dire, c'est que cette mission qui nous a été confiée en Centrafrique, mais aussi ailleurs, c'est une mission noble. La mission qui est de protéger les populations civiles. Et je crois qu'il faut le dire et le redire, nous ne pouvons pas passer du rôle de protecteur à prédateur. Et cela, c'est précisément ce que nous ne voulons plus. Nous avons dit que nous allons absolument appliquer une politique de la transparence totale. Nous allons dénicher nous-mêmes. Nous avons invité les populations à communiquer avec nous. Des numéros verts vont être distribués et portés à la connaissance des populations pour que ces populations communiquent. Moi, ce que j'ai dit aux populations, c'était deux choses. Il faudrait que nous soyons partenaires dans la lutte contre ces horreurs. Autrement dit, si les populations voient quelque chose, qu'elles nous disent ce qu'elles ont vu. Donc nous ne sommes plus dans cette ère du silence. Rompre le silence pour les victimes, c'est notre démarche. La deuxième chose, et là je les ai suppliés, parce que malheureusement, en raison du poids de la tradition et des stigmas justement culturels, il est absolument horrible de penser que les populations des victimes sont doublement victimisées lorsqu'elles sont stigmatisées par leur propre communauté et chassées loin du lieu familial. C'est tout cela qu'il faut absolument éviter et sur quoi il nous faut travailler, donc avec un accent particulier sur la protection des populations victimes de ces crimes. Donc voilà, c'est un défi immense et nous le faisons, encore une fois, en partenariat avec les États qui nous envoient des troupes. C'est un sacrifice énorme de ces États-là. cas-là, ce que nous disons, c'est que nous ne voulons pas stigmatiser des pays entiers, mais nous disons ceci, il faudrait désormais qu'on arrive à une situation dans laquelle, lorsque un crime est commis à l'extérieur, nous parlons de crime parce qu'il s'agit d'abus commis contre des enfants qui sont mineurs, et donc cela est inacceptable. Et donc, lorsque nous sommes dans des situations comme celle-ci, le réflexe qui était le réflexe ancien, d'une solidarité négative, à savoir un esprit de corps qui visait à protéger justement ceux qui, dans les différents contingents, avaient commis ces horreurs, eh bien cela doit prendre fin. Parce qu'il y a une obligation pour les pays qui mettent à disposition justement ces troupes de s'assurer que le crime commis sur le lieu d'opération soit traité comme un crime également à domicile, dans le pays d'origine. Et c'est donc dans ce partenariat responsable que nous voulons entrer avec les pays contributeurs de troupes pour que, précisément, on prenne ensemble soin de protéger les populations victimes de tous les crimes que nous connaissons.
Est-ce que ces allégations ont affecté la perception de la MINUSCA et de l'ONU de façon palpable sur le terrain ?
Je crois que les populations peuvent, à un moment donné, ne pas comprendre que des troupes qui ont été envoyées pour les protéger les victimisent. Cela est simplement inacceptable. Et je crois que les populations peuvent avoir un ressentiment, précisément, à l'endroit des éléments de la MINUSCA qui seraient impliqués dans ces horreurs. Seulement, et c'est peut-être la bonne nouvelle, toutes les fois qu'il y a une base de la MINUSCA quelque part, eh bien, les populations déplacées vont naturellement et spontanément s'établir autour de ces camps. Parce que les populations savent que c'est notre vocation première que de les protéger. Alors elles viennent naturellement vers nous. Mais c'est souvent des populations qui sont déjà fragilisées, très vulnérables. Et voilà pourquoi j'insiste pour dire que la réponse à la protection de ces populations va au-delà du sécuritaire, du militaire. J'ai invité toute la famille des Nations Unies, en République centrafricaine, l'équipe pays, mais aussi, pour qu'ensemble, nous puissions répondre justement aux besoins de première nécessité, aux besoins de base, pour que nous puissions nous assurer que ces populations qui sont déjà si vulnérables et si frappées par le sort ne se sentent pas contraintes et forcées de se vendre pour un bout de pain. C'est ça, cette horreur qu'il nous faut absolument éviter.
Maman, ma pauvre maman, ma bien-aimée maman.
Dernière question, qu'est-ce qui est l'aspect le plus difficile de votre travail aujourd'hui, votre plus grand défi ?
Écoutez, je ne crois pas que la question dont nous venons de parler soit une question secondaire. Bien au contraire, elle fait partie de notre mandat, qui est un mandat multiforme, multidimensionnel, et qui vise précisément à apporter une réponse qui soit globale au problème de la Centrafrique. Nous nous réjouissons aujourd'hui des pas qui ont été réalisés. Et nous voulons surtout éviter que nous soyons distraits par ces questions aussi fondamentales qui touchent à la dignité de l'humain. Nous allons les traiter avec abnégation et détermination. Nous sommes convaincus que nous tenons le bon bout. Nous sommes convaincus qu'en restant transparents sur ces questions, en restant absolument fermes, nous réussirons à tourner la page. Et nous réussirons précisément à faire en sorte que ce pourquoi nous sommes partis dans ce pays soit l'essentiel de notre mission. Et nous allons la réaliser avec détermination. Nous sommes, je crois, je suis absolument confiant sur le fait que tout concourt à faire en sorte que nous puissions réussir dans cette mission.
Qu'est-ce qui vous donne le courage pour aller de l'avant ?
C'est d'abord les Centrafricains. C'est d'abord les Centrafricains, ces populations centrafricaines avec lesquelles je suis au contact régulièrement lorsque je quitte Bangui pour aller à l'intérieur du pays, que de voir leur enthousiasme auquel j'ai personnellement assisté lors du vote, des populations enthousiastes qui n'avaient rien d'autre que leur carte d'électeur et l'espoir immense de reconstruire leur pays. C'est cela qui me fait tous les jours croire et qui me recharge pour aller de l'avant dans cette mission absolument exaltante.
Et c'est avec Parfé Onanga Anyanga, le représentant spécial du secrétaire général en République centrafricaine, que se referme ce magazine Escale. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien de la Radio des Nations Unies en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous la semaine prochaine.